où que vous soyez, en syntonisant Boulevard 102.1. Diffuseur officiel de la musique des Grands Feux Loto-Québec.
La nouvelle programmation de Boulevard va faire jaser cet automne.
Il y a quelqu'un sur la hotline, allô Boulevard?
OK.
Rage Against le matin, l'open mic, le pit stop, Marceau le midi, Gravel dans le retour, Marceau le soir, le volume au max, le rock and chill, le boulevard du rock, le volume à planche. Boulevard 102.1, bon la semaine, la fin de semaine, qui t'informe sur ce qui se passe à Québec et ailleurs. Des gros dossiers comme les petites niaiseries.
Moi, je serai où?
Je vous écouterai. Sans oublier le meilleur de la musique rock, de tes années grunge et pop-punk à aujourd'hui.
Non, moi, je serai où? Je vous... Non. Maintenant, il faut nous écouter.
Bravo!
Oui! On est content de vous retrouver.
Pour vrai, on est content. J'espère que vous l'êtes aussi.
Boulevard 102.1.
Marceau, le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau, le soir.
102.1. Salut, bonsoir. Bienvenue sur les ondes de Boulevard 102.1 Québec, en espérant que vous ayez passé une belle journée. Ce soir, je me demande si on va avoir assez de 60 minutes parce que l'invité que j'ai ce soir, c'est un grand communicateur, quelqu'un qui fait partie du paysage télévisuel depuis des années. Il a commencé très jeune, on va se le dire. Mais c'est un jaseux. Fait que là, je me dis, tabarouette, tous les sujets que je voulais aborder avec lui, vont-ils être capable de passer au travers? Mon invité, c'est Marcel Bouchard. Salut.
Allô, allô. Jaseux, c'est une qualité ou un défaut?
Non, je pense que c'est une qualité. Puis, tu es entré dans ma vie, puis je suis pas mal persuadé que tu te souviens même pas de ça, mais quand tu es entré dans ma vie à un moment où je pense que j'étais extrêmement angoissé. C'était dans mon ancienne vie radio. L'animateur qui était en place avait dû quitter parce qu'il s'entendait pas avec l'entreprise pour laquelle il travaillait. Puis là, on m'avait dit, Yann, c'est toi qui vas faire le show tard. Donc, tu vas jaser pendant 3 heures, puis tu vas inviter des gens avec qui tu peux piquer des jasettes. Puis tu as été avec 2 autres personnes à ce moment-là, le premier invité. Il y avait toi, puis 2 autres personnes. Marcel, je me souviens pas de ces 3 heures-là, mais tout ce que je peux te dire, c'est que s'il y en a un qui m'a sorti de la marde parce qu'il jasait, c'était toi. C'était la première émission que je faisais de ce type-là, puis tu m'avais sauvé les fesses ce jour-là. Là.
Pour avoir déjà interviewé des gens, moi aussi, je le sais, c'est quoi. Quand tu te réponds par « oui », « non », « oui », c'est fatigant, tu pédales, tu essayes de le garder, tu sais, puis tout. Mais je pense que... Quand tu communiques, tu fais des communications, je trouve que c'est important de raconter les affaires on te pose des questions, puis de développer un petit peu là-dessus. Moi, j'ai peut-être tendance à trop m'étendre, mais ça, on me ramène, puis c'est sans rancune.
Mais t'es un raconteur.
Ouais, ça fait partie de chez nous. Mon père était comme ça.
Quand tu parles des sports, quand tu parles du plein air, je veux dire, quand même que tu me parles d'un sport ou du plein air qui m'intéresse pas tant sur une certaine partie, moi, écoutez pareil parce que t'es un raconteur puis c'est le fun. T'es en vacances pendant quelques semaines. Tu fais de la voile depuis combien d'années?
47 ans, à peu près.
47 ans.
Je suis pas un gars qui a fait des grands voyages à voile. J'ai fait la Transat en 84, mais ça, c'était pas sur mon bateau. C'était sur un autre bateau. On est traversé avec des gens de Boscoville, Montréal, puis des étudiants du collège que j'avais amenés avec moi.
Ça, c'était-tu les grands voiliers Québec
84? Les grands voiliers, c'est ça. C'est les grands voiliers.
T'avais-tu des chums qui se parquaient à Drummondville? Parce qu'on disait qu'à Québec, il n'allait pas avoir de stationnement à l'époque.
On aurait pu appeler ça les renvoyés aussi, tu sais, parce qu'il n'y avait pas eu de monde tant que ça, finalement. Mais c'est dur d'amener cette culture-là au Québec parce que tu fais juste regarder les approches. Le Canada a été découvert par le Québec.
Ouais. Hein?
C'est rentré ici, par le fleuve.
Exact.
T'as plus de vieux bâtiments sur le bord du fleuve. Ils ont tout défait ça. Ils ont fait des condos 5 quais. Ils ont fait... Tu t'en vas à Vancouver. T'arrives à Vancouver.
Ouais.
Ils ont encore toutes les anciennes sheds. C'est tout rénové, c'est retapé, mais c'est encore à l'ancienne pour parler de l'histoire. Nous autres, on n'a plus d'histoire là-dessus. Tu sais, on a gardé dans le vieux, heureusement, là, le petit Champlain qu'on a retapé un peu. Là. Mais à part ça, on manque un peu là, de reconnaissance face à ces années-là. Donc, la culture de la voile au Québec, ça fait pas longtemps que c'est devenu populaire. Moi, je me rappelle en 1976, quand je suis sorti de l'université, j'étais équipier sur un bateau qui s'appelait le Barberousse. Ça appartenait à Jean-Pierre Ruel. Salut Jean-Pierre, si jamais il nous entend. C'est lui qui a construit le Jardin Mérissy.
Okay.
Alors, c'est un gars de construction. Mais on était comme 8 ou 10 personnes. Mon ami Pierre m'avait amené sur ce bateau-là, puis moi, j'apprenais à faire de la voile, là. Il avait fait sur des petits dériveurs, mais c'est un quillard, jamais. Puis Jean-Pierre, lui, il nous amenait faire des courses partout sur le lac Ontario, puis tout, tu sais. On avait le vent à terre pour Jean-Pierre en courant. On découvrait avec lui ça. Puis dans ce temps-là, quelqu'un qui avait un bateau à voile, moi, j'avais jamais espéré un jour en avoir un. J'aurais aimé ça, mais je me disais, Jean-Pierre, des fois, on naviguait de nuit. Je disais, explique-moi donc, qu'est-ce que tu as fait pour réussir à te payer ça, tu sais. Mais tu sais, c'était un entrepreneur, puis c'était ouais. un gars qui avait un gros talent ailleurs. En tout cas, il nous jasait, puis il nous expliquait. Fait que, Ça nous motivait, ça nous donnait des buts, des objectifs, mais on a commencé comme ça.
Oui. Mais t'as commencé avec un petit bateau ou un gros? Parce que j'ai fait mon cours avec la mère de mes enfants que tu connais bien. Là. J'ai fait mon cours de voile. C'était à Lévis que ça se donnait. C'était un petit couple qui était super le fun à côtoyer, qui nous avait embarqué.
Guilin, c'est pas Guilin qui t'avait
dit? Oui, puis sa conjointe. Nous autres, on avait Michel. Comment?
Michel.
Ouais, on avait les deux une blonde là, extrêmement brillante et tout ça. Moi, ça m'avait marqué. Puis elle m'avait montré les bases de la voile. Parce que pour moi, c'était invraisemblable de pouvoir continuer d'avancer quand j'avais le vent en face.
Ouais, c'est ça. T'as montré à Louvoyer.
Ouais, c'est ça. Fait que là, elle m'avait montré à Louvoyer et tout ça. Puis je me suis dit, bah, ben tiens, ça va être dans mes objectifs de faire de la voile. Entre Québec et Lévis, je me sentirais à l'aise. Mais pour toi, es-tu capable d'aller peut-être un peu plus vers le secteur, je sais pas moi, dans le coin de Rivière-du-Loup? Commence à être de l'eau salée, là. Je veux dire, l'eau salée commence actuellement à la pointe est de l'île d'Orléans.
Ouais, si on veut. C'est pas compliqué. Le bon guide là-dessus, t'as qu'à regarder les outardes, puis ouais. À la place où ils arrêtent, c'est pour s'alimenter, puis eux autres, ils mangent du sirp. Et le sirp, ça pousse dans l'eau saline. Fait qu'à partir de Cap-Tourmente, là,
ouais.
t'en as de l'eau saline. Là. Début de la fin de l'île d'Orléans, Cap-Tourmente, ça commence à être salin un petit peu. Là.
OK.
Fait que là, ça commence là.
Puis là, quand tu vas là, c'est l'action, parce que quand tu. Ben, le marin d'eau douce que tu m'expliquais tantôt versus le marin d'eau salée, là, il y a une différence.
Le fleuve Saint-Laurent, c'est considéré comme la deuxième voie maritime la plus difficile à naviguer au monde. Quand on dit maritime, ça veut dire que c'est une voie commerciale.
Ouais.
Après la Manche. La Manche étant la première, pour toutes sortes de raisons. Les hauts fonds, les marées qui sont importantes ici, la visibilité qui tombe, dans le temps de le dire, la météo qui change, comme ça. Alors, ces raisons-là font, sont des valeurs ajoutées à la difficulté de naviguer dans le Saint-Laurent. Fait qu'à partir de là, puis moi j'ai toujours dit... Marc, je ne suis pas la voie, la vérité, la vie, là. Mais pour avoir fait du ski au Québec, pour avoir fait de la plongée au Québec, pour avoir fait de l'escalade au Québec, pour avoir fait de la voile au Québec, pour avoir fait tout ce que tu fais au Québec, quand tu es capable de le faire ici, tu peux le faire n'importe où sur la planète. On est pires conditions dans tout.
Même affaire pour la plongée sous-marine, c'est ce qu'on m'avait dit.
Même chose. On est pires conditions dans tout.
Prends ton cours au Québec en plongée sous-marine, puis par la suite.
Tu vas plonger doigt dans le nez partout.
Le sud, ça va être un pet dans l'eau.
Exact. Alors, c'est ça. C'est juste ça. C'est l'apprentissage de son territoire. C'est aussi être capable de développer en fonction des conditions naturelles. Puis en bateau à voile, contrairement avec un bateau moteur, ce qu'on appelle un cruiser ou un cigarette boat, quand le mauvais temps s'en vient, tu ne peux pas te sauver, il faut que tu le vives. Alors, tu apprends à naviguer. Puis sur l'eau, c'est la seule place au monde où quand tu passes, puis il y a une tempête, tu ne peux pas dire qu'il y en a un qui passe avant toi.
Exact.
Tu vas le savoir après si ça passe.
Oui. Tu fais peur? Parce que, tu sais, moi, on parlera tantôt d'aviation, parce que je sais que tu as ta licence de pilote aussi, puis j'ai ma licence de pilote que j'ai pris en 2008 chez Pro Aviation à Québec, qui est malheureusement fermée. Mais quand tu fais de la voile, là, puis à un moment donné, le brouillard commence à être extrêmement dense, puis tu vois rien devant toi. Marcel Bouchard, y a-tu peur ou bien il est capable de naviguer puis de regarder ses instruments puis de se dire
aujourd'hui, c'est plus facile.
Ça va bien aller.
T'sais, aujourd'hui, c'est plus facile. On se casse pas la tête. Là, veux dire, on se promène pas avec les cordes vocales comme des cordes de violon dans le cou parce que t'es ses nerfs. Mais les premiers temps qu'on descendait dans le bois du fèvre, mais moi, je suis originaire des Escoumins. Alors, c'est tout près de Tadoussac, Grande-Bergeronne, ces places-là. Donc, déjà une notion du coin. Je sais c'est quoi de la brume. Tu es au monde là-dedans un peu. Mais premier bateau, il y avait 20 pieds. Il y avait une boussole, un sonar, puis un radio. That's it. Si tu te fais poigner dans la brume avec ça, tu marches avec tes cartes, puis tu t'en vas essayer de trouver une place qui n'a pas beaucoup d'eau. Fait que de même, tu sais que les gros bateaux ne sont pas là, puis tu t'en vas. Fait que tu sais déjà où t'es, puis tu te replaces. Tu finis par t'orienter comme ça.
Ouais.
Tu sais, les bouées, t'entendais la cloche, t'essayais de te guider sur la cloche. Le problème, c'était la grosse navigation. Parce que là, tu dis, hey, il faut pas qu'un bateau s'en vienne à côté de moi. Il voyage à 12 nœuds, puis moi, je voyage à 5 nœuds. Tu sais, attends un peu, là. C'est complexe qui te rentre dans l'arrière. Là. Ça va pas bien. Tu sais, faut que tu vois comment ça se passe.
Ouais.
Alors, ça, c'était plus les premières classes. Ce qui faisait qu'on ne voulait pas se faire poigner dans la brume, fait qu'on anticipait. Naviguer, c'est prévoir. On prévoyait que. On savait tout le temps où on était. Il y avait des radios gognos, là. Tu rejoignais un poste de radio de Rivière-du-Loup avec un poste de radio de Québec. Puis là, tu faisais un X, puis on était ici. On naviguait à l'estime. On estimait qu'on était rendu là. On estimait. Fait que tu apprends à te faire confiance aussi, à quelque part. Après ça, les appareils sont venus. Tu sais, t'avais des Laurencés. Au Québec, je m'excuse, là, ça vaut de la M parce qu'il y a tout d'interférence partout. Mais on finissait par se débrouiller avec ça. Et après ça, il est arrivé le GPS. Les lecteurs de cartes, tu te vois déplacer en temps réel sa carte. Les OIS que les gros bateaux ont, puis t'en as un sur ton bateau, fait que tu dis OIS, bon, un OIS, tu vois arriver ça à un point vert, puis à un moment donné, il y a une ligne rouge. Ça veut dire qu'il est en gisement de collision. Tasse-toi un peu, la ligne revient verte, t'es correct. Tu comprends? C'est toutes des affaires qui fait que ça facilite la tâche. Faut pas que ça manque, par exemple, parce que si tu sais pas naviguer, si ça manque... Là, mon homme, t'es parti pour l'enfer.
Ouais. On devient-tu un peu empoté avec toute cette belle technologie-là? Ouais. Parce que si tu prends un pilote de voilier, je sais pas moi, des années 70-80...
C'est pas la même chose. C'est pas le même marin. T'sais, le marin qui a traversé l'océan avec un compas et ses étoiles, là, quand il arrivait, puis il disait « Ah, OK, on est rendu l'autre bord. On est rendu l'autre bord. » Mais t'étais à plus ou moins 200 000 de la place que tu voulais aller. Là. Ouais. Nous autres, on était à 50 pieds de la place, à 10 pieds de la place qu'on veut aller. Tu comprends-tu que c'est pas la même chose? Puis la notion de temps ne veut pas dire la même chose. Quand tu parlais à un marin, puis tu disais « Quand à quelle heure tu vas arriver? » Je vais m'arriver dans le courant de l'avant-midi. Le courant de l'avant-midi. C'est pas midi, puis c'est pas 4 heures. Il y a un courant. En de la marée, c'est 6 heures. Il va jouer là-dedans.
C'est un vocabulaire qu'on a repris de ça, ouais, des ouais, marins.
Oui, ouais, beaucoup. On a pris ça de ça, beaucoup, beaucoup. Beaucoup. Quand tu entends parler d'un crachin, j'en parlais avec ma blonde aujourd'hui. Un crachin, c'est une bruine.
OK.
La bruine. Mais le crachin, c'est un terme marin qui veut dire une petite pluie serrée très fine. Comme un crachat, un crachin. Dehors, il y a du crachin présentement.
OK. Puis le fleuve Saint-Laurent, c'est la deuxième voie la plus difficile à naviguer. Est-ce que c'est la raison pour laquelle il y a des pilotes
du Saint-Laurent? Deuxième voie maritime.
Oui. Est-ce que c'est la raison pour laquelle il y a des pilotes du Saint-Laurent?
Nous autres, nous pilotes, exactement, parce que le fleuve a ses particularités. Il faut les connaître. Puis n'oubliez pas que les gros bateaux qui montent ici, il y a des porte-conteneurs, mais il y a aussi des pétroliers. Il ne faudrait pas que ça s'évente dans le milieu du fleuve, ça, parce que ça serait la tragédie pour le reste du fleuve jusque dans le golfe. Alors, il faut que ces gens-là soient là. C'est des gens qui sont très, qui ont des connaissances très pointues en ce qui a trait au Saint-Laurent. Et qui vont vous dire que l'île Rouge, c'est une île qui a 14 kilomètres de circonférence. Pas de circonférence, mais un récif de 14 kilomètres autour. Et c'est l'île qui a cravaté le plus de bateaux dans le Saint-Laurent. Mais il faut le savoir.
Ça, c'est celle-là qui est un peu comme en croissant, là?
À sortie du Saguenay.
OK.
Il y a un Haut-Fond-Prince qui appelle la Toupie. Là.
Oui.
Bon, bien, juste pas loin, il y a l'île Rouge. Et c'est là. C'est là que ça se passait. Tu sais, il y a eu un gros bateau de croisière, il y a eu encore un certain nombre d'années qui s'était échoué là, parce qu'il voulait aller voir les baleines. Le gars, il a coupé le moteur. Il n'a pas pensé à l'affaire, puis le courant est arrivé. Pourtant, il y a un pilote sur ce bateau-là. Ouais. Il n'a pas eu le temps de réagir, tu sais.
Ouais. Et Louis Joliette s'était fait prendre aussi, juste en face des chutes Montmorency, dans le banc de sable.
Dans le banc de sable, c'est plus ou moins grave, un banc de sable, parce que quand la mer remonte, t'en sors. Mais...
Le pilote du Costa Concordia, qui avait décidé d'avoir la côte, il était avec sa maîtresse à l'époque. Non,
pas brillant, ça.
Sa maîtresse disait « J'aimerais ça voir la côte ». Il a dit « Parfait, moi je vais avec mon bateau de croisière, on va essayer de se rapprocher de la côte ». Finalement, il avait couché le bateau.
C'est un imposteur, ça. C'est un imposteur. C'est un gars qui avait eu ses cartes dans une boîte de Cracker Jack. Parce qu'il n'y a pas un marin qui est qualifié, qui a fait les formations, qui vont prendre une décision de même, surtout rendu au capitaine. Ce gars-là, d'ailleurs, il est en prison.
Oui.
Tu sais, c'est un imposteur. C'est un gars qui avait fraudé sa formation, qui avait fraudé son paquet d'affaires.
Quand on disait les femmes et les enfants d'abord, lui, il n'avait pas compris. Non, non, il était le premier qui s'est embarqué dans le bateau.
Ben non, excuse-moi l'expression, mais un crosseur, ça reste un crosseur.
Ouais. Ça te passionne encore à ce jour, la voile? Est-ce que tu as un rêve? Est-ce que tu aurais pour ambition de traverser, je ne sais pas moi, Québec vers la France?
Pas en tout. Moi, j'aime naviguer parce que je suis sportif. C'est actif. C'est un bateau, il faut toujours que tu fasses de quoi. Moi, m'asseoir d'un bateau puis attendre d'arriver, là, comme promener en bateau, ça ne m'intéresse pas. Puis j'aime ça, la voile, puis j'aime ça débarquer. À Québec, je me fais de la belle. Je fais beaucoup plus de voile ici que quand je m'en vais en voyage en vacances, tout le temps moteur. Le vin pas donné, il faut faire nos marées. Les marées, c'est 6 heures. Exemple, tu pars de Cap-Alec, tu t'en vas à Tadoussac, il faut que tu partes 2 heures après le début du bassin pour que quand tu arrives au fond Prince, c'est la renverse du courant se fasse puis tu puisses rentrer à Tadoussac avec le courant. Si tu pars de Cap-Alec puis tu montes à Québec, tu pars 1h30 après le début, avant la fin du montant pour que tu refoules puis tu repognes le montant à Cap-Ouzouet puis là, tu as du montant jusqu'à Québec. Tu sais, c'est un paquet de connaissances techniques de même, ça t'occupe. Puis quand tu fais de la voile, ben, tu es actif physiquement. Moi, je suis comme ça. Alors, c'est ça que j'aime faire, c'est ce que je fais.
Tu dors-tu un peu dedans?
Ah oui, j'ai passé mon temps à dormir dedans, puis là, j'ai une blonde qui capote se coucher dans le bateau. Des fois, je trouve que fait trop chaud, je vais aller coucher à la maison, mais elle veut pas.
Elle est bien dans le bateau.
Oh, elle aime ça.
C'est une belle vie. Puis t'avais ta licence de pilote aussi.
Mon permis sur un giro. Mon autogire, j'ai eu un autogire pendant 7 ans.
OK.
J'ai fait près de 700 heures de vol.
L'autogire, décris-moi là. C'est-tu ça là avec le gros fan en arrière?
Oui. Un autogire, c'est comme un hélico, là, sauf que je suis propulsé par mon hélice arrière et mon rotor devient mon aile. Okay. C'est pas motorisé, le retard d'un autogire.
Okay.
Tu vois, t'es arrêté. Là, tu mets ton rotor est bien droit, tu lances les rotations du rotor jusqu'à ce qu'il arrive à 200 tours minute. À 200 tours minute, tu lâches les freins, tu tires la manche, tu pousses le gaz au fond. Tu roules, tu arrives à 80 km/h, t'es parti.
Okay. C'est une voile qui est au-dessus de toi.
C'est comme une voile. C'est ton hélice qui est comme ça. Alors, si t'es en l'air, puis ton moteur arrête, parce que ton hélice te pousse en l'air, arrête, il va se remplir, tu vas arrêter, puis il va se remplir en descendant, ça fait que... Il va battre. Tu vas peut-être toucher le sol en ligne droite à 30 km/h.
Okay.
Mais tu rentres pas dans la planète à 120, là, c'est pas pareil. tu vas te blesser, tu vas briser des choses, tu vas pas éviter ça, là.
Puis t'as fait ça pendant combien d'années?
7 ans.
7 ans.
7 ans. Je me suis amusé beaucoup. À un moment donné, c'est parce que, tu sais, en arrivant à la retraite, là, tu gères la décroissance. Fait que là, ça coûte un bras, là, ces affaires-là. Il faut que tu les entretiennes, il faut que tu gardes ça, il faut que tu roules. Quoi que c'est peut-être.
Mais t'as jamais été à la retraite. Arrête de dire que t'es à la retraite. Tu fais tout le temps plein d'affaires. T'es partout.
Ouais, ben, je suis partout. Je suis moins partout que j'ai déjà été. Ouais. Mais, tu sais, ça paraît. Il faut que tu gères ça. Tu gères ça. Alors, c'est pour ça que j'ai vendu, à un moment donné, parce que je voulais refaire des choses sur mon bateau que j'ai refaites. Puis tout mon bateau est en ordre, est impeccable. Fait que même si tu as moins de revenus, tout est payé. C'est moins pire, très rien qu'à le faire vivre.
Exact. Et
autogire. Okay. Il y a une belle école pour ça. Là. Les gens de AirPro Giro sur la rive sud à Saint-Apollinaire, avec David Sigier, Éric Sigier, lui, m'a donné des cours de paramoteur. Le parachute avec l'hélice dans le dos, ça, j'ai fait ça aussi. Ça, j'ai adoré ça. Parce que ça, c'est un beau feeling. Ça, t'es proche de la nature au bout. Moi, je ne voyagerai pas avec ça, là. Mais pour faire monter, prendre des photos puis te promener, c'est magnifique.
C'est un rêve, là.
Alors, c'est un rêve. Puis David a gagné des championnats avec ça, là, en Chine, un peu partout. Là.
Ils ont une école là-bas à Saint-Apo.
Oui, une école là-bas à Saint-Apo. C'est sur leur terre, c'est au fond, c'est fait pour ça. Puis des autogires, il en vend aussi. Puis c'est un pilote et un instructeur et c'est tout un bonhomme, là. Je vais t'avouer que David Sigier, un grand coup de chapeau à ce bonhomme-là. Il fait ses choses selon les règles de l'art. Il est sérieux. Son école, ça passe par là. Les règles sont là. Transport Canada est en arrière de ça. Ils sont droits comme une barre.
Il n'y a pas de chance à prendre en aviation.
Non, puis t'en prends pas. Puis comme il dit, Marcel, des pilotes téméraires, il y en a, mais des vieux pilotes téméraires, il n'y en a pas. Tu comprends?
C'est
mieux d'être à terre, d'avoir envie d'être en l'air que d'être en l'air et d'avoir envie d'être à terre.
Okay. Nous autres, avec le cours de pilote privé, on avait 50 heures de vol à accomplir. Puis par la suite, on pouvait aller chercher notre licence fédérale. Il y avait une partie vol à vue, puis après ça, il y avait une partie vol aux instruments.
Moi, j'ai fait juste vol à vue.
Vol à vue, Marcel, là, j'étais très à l'aise avec ça. Ouais. Je me sentais comme un oiseau là, qui volait, je sais pas moi, à 3000 pieds, puis j'étais très heureux. Mais le vol aux instruments, quand je l'ai vécu pour la première fois avec l'instructeur, puis il m'a dit « Maintenant, tu regardes les instruments », là, ça a été un moment dans ma vie où je me disais « Que c'est que je fais ici? » Ils sont fous de pratiquer ce métier-là. Vol à vue, tu vois absolument.
Non, on est aux instruments. Comme tu fais dans la brume en bateau. C'est la même affaire.
Oui. Mais je comprends. Mais en bateau, on dirait que t'es au sol. Là. Je comprends, t'es sur l'eau. Ouais,
mais c'est
au
instable.
Sol.
T'as un courant qui te charrie.
Dans les airs, vol aux instruments, tu vois rien. Tu vois pas ta piste d'atterrissage.
C'est atterrir qui est le nerf de la guerre. Mais dans les airs, moi, je n'ai pas de problème avec mes appareils. Je suis habitué sur mon bateau. Ouais, c'est la même chose. tu t'en vas, puis tu t'en... atterrir, là, si tu vois pas, là, c'est une autre histoire, là. Tu cherches une place t'évanouir, là. T'sais, mais en principe, si t'es bien équipé, puis tu rentres dans le petit carré que t'es supposé rentrer, puis tu fais tes courbes,
ouais,
tu t'en sors. Mais c'est un apprentissage. C'est une habileté qui se travaille. Faire un équilibre ses mains, là, c'est un apprentissage, c'est une habileté qui se travaille.
Je veux dire que moi, ça m'a pris 4-5 heures avant d'être à l'aise pour le vol aux instruments, parce que, je veux dire, de fermer les yeux, puis de dire, OK, là, tu regardes juste tes instruments, puis il y a juste ça qui existe, il faut que tu arrives à la bonne place. Pour moi, c'est inconcevable. On réussit à passer au travers pour avoir nos licences et tout ça. Là, je trouve ça le fun. Mais
ta meilleure assurance en aviation, c'est ta formation.
Oui, toujours.
Alors, faut que tu en fasses. Moi, j'ai fait une formation comme on devait faire sur un autogire, deux places, mais une derrière l'autre, avec le cockpit, là, puis tout fermé. Mais quand j'ai acheté mon autogire, moi, j'ai acheté côte à côte, une place à côté de l'autre. Alors, quand je suis embarqué là-dedans, t'es pas dans le centre pour atterrir, c'est pas pareil, ta perspective. Tout, David, j'ai dit, garde, j'ai refait encore une douzaine d'heures supplémentaires théoriques et pratiques avec lui. Mmh. Oui, pour être à l'aise. Puis ça a fait la différence du monde. Alors, faut pas refuser d'aller là-dedans. Faut aller dans cet apprentissage-là. Faut s'ouvrir face à ça. Et quel beau monde! Quel beau monde, parce que tu vois la nature sur un autre plan aussi. C'est intéressant. C'est des belles activités. Au Québec, là, on est chanceux. Moi, je trouve qu'on a le meilleur des mondes. Ouais. Printemps, été, automne et hiver.
La place de l'adrénaline dans ta vie, tu en laisses-tu de la place à l'adrénaline? J'ai l'impression que tu carbures à l'adrénaline. Puis en même temps, j'ai rencontré un gars qui était semblable à toi. Un gars qui se disait, regarde, moi, là, j'ai 65 ans. J'étais à la retraite, mais je pratique encore le... Lui, c'était du base jumping.
C'était
un des meilleurs gars de base jumping.
Cheveux longs blonds.
Okay,
c'est un ami, c'est un gars que je connais.
Il venait avec moi, c'est un gars que j'adore. Puis il disait, non, moi, l'adrénaline m'intéresse pas tant.
Mais lui, ce gars-là, là, on parle d'un spécial.
Oui, oui.
Je ne suis pas là-dedans, moi. Là. On parle d'un spécial. D'abord, c'est tout un athlète.
Hein? Oui.
Ça a l'air de rien, puis tout un athlète. Là. Puis lui, il a sauté avec son fils puis son petit-fils. Là. Oui, c'est la famille au complet a passé là-dedans. Là. C'est tout un bonhomme, ce gars-là. Là. Et ce gars-là est très étudié. Il fait du base jumping, il fait du parachute, il fait tous les niveaux, mais tout est étudié. Toi, tu ferais ça. Moi, je ferais ça. Je passerais pour un casse-gueule. Tu comprends? Lui, il fait ça intelligemment, il est encore vivant, puis il saute encore.
C'est tout le temps calculé. Il avait participé au film Les pieds dans le vide avec Guillaume Lemaitre-Vierge, Éric Bruno, puis Laurence Leboeuf. Il avait été consultant pour ce film-là. Je me rappelle pas de son nom, tabarouette. Ça va m'en revenir.
Moi aussi, j'ai un blanc, excuse-moi.
Mais gars-là me disait que l'adrénaline, pour lui, c'était pas la raison pour laquelle il pratiquait ce sport-là. C'est juste parce qu'il aimait ça. Toi, l'adrénaline?
C'est ça, mais il aimait ça. En fait, on fait pas ça pour ça. Mais ça fait aussi partie de la nourriture de l'activité, l'adrénaline. Tu sais, ça fait partie de nous autres, les endorphines, tu sais, ce que ça sécrète, puis ce que ça nous amène, l'état de bien-être, le sentiment du devoir accompli. Tu sais, c'est tout. Quand tu as les premières émissions de radio, puis tu as eu fini, tu es sorti de là, tu étais brûlé mort comme si tu avais couru un marathon, puis pourtant, tu étais assis, là. Mais tu sais, tu as travaillé, tu t'es déplané, tu voulais que ça sorte bien, c'était ta carrière, tu t'en allais. C'est l'histoire de la vie. Il faut sortir de sa zone de confort si on veut avancer à quelque part. Puis dans la vie, au Québec, comme partout ailleurs, si tu veux faire de quoi, faut que tu te donnes du trouble.
Oui, sinon t'apprends pas.
T'as des enfants, là. Tu veux leur montrer ses coins de rivière, tu veux leur montrer ses coins de forêt, bien, faut que tu te donnes du trouble. Faut que tu te lèves le matin, tes équipes, tu montes la tente, t'amènes le lunch, t'amènes du stock, tu pars avec ça, tu t'en vas là, t'es amènes, t'es mets dans l'auto, t'es alimentes un peu en t'en allant, t'arrives là-bas, tu rouvres la porte, tu montes la tente, t'en retiens un parce qu'il va à la rivière, c'est pas une autre. T'es dans le trouble par-dessus la tête, mais eux autres, ils vivent, là. Ils vivent et ils apprennent, là. Ils vivent au contact de la nature, mais c'est donner du trouble, ça.
Ouais.
Sinon, t'es assis devant la TV, tu regardes la TV, c'est ça une rivière.
Est-ce qu'on va assister à une génération d'enfants empotés qui n'auront jamais fait de pêche dans leur jeunesse? Qui n'auront jamais fait de sport nécessairement dans leur jeunesse? T'sais, j'ai l'impression que l'activité sportive, là, t'sais, moi je fais partie d'une génération où regarde, nos parents, pour nous donner une punition, ils nous obligeaient à rester dans notre chambre. Là, maintenant, pour donner une punition à nos enfants, faut leur dire, vous allez dehors. C'est ça, c'est une punition. T'as-tu l'impression qu'on erre, dans le sens d'errer, là, dans nos décisions, des fois, de ne pas justement montrer les bases à nos enfants? Moi, j'adore aller à la pêche avec mes gars. Mes gars, l'expérience de pêche, ils ont trouvé ça incroyable. Puis j'ai vu dans leurs yeux que j'étais en train de transmettre quelque chose que je voulais transmettre, puis qu'ils allaient peut-être refaire ensemble lorsque je ne serai plus là.
le sport, ils se sont intéressés au sport, mais ils ont des amis qui ne font pas de sport. Ils ne font pas d'activité avec leurs parents, Marcel.
Il n'y a pas un oiseau blanc qui sort d'un nid de corneille. Si tu bouges, tes enfants vont bouger. La preuve, tu les amènes à la pêche parce que tu pêches. Tu as une famille qui ne pêche pas. S'il n'y a pas personne dans la famille qui l'amène à la pêche, elle ne fera pas de pêche. Les familles éclatées ont fait en sorte que des bonhommes sont sortis d'un bord puis les femmes de l'autre. Puis les mères sont devenues quasiment des pères parce qu'il y avait tout à faire. Souvent, c'est eux autres qui avaient à garder l'enfant. Puis là, les flots ont appris des choses, mais les femmes n'allaient pas forcément à la pêche. Fait que les flots, ils n'allaient pas. T'sais. Puis ceux qui ont réussi à. Le père allait chercher puis les amener à la pêche, mais ils l'ont appris. Moi, je pense que. Écoute, ça vient pas de moi, ça, mais je répète ça souvent parce que je trouve ça tellement vrai. Je ne suis pas la voix, la vérité, la vie, là, écoutez, là, mais je vais vous dire de feeling, puis je pense que l'exemple que je vais vous donner, on dit que les gens forts créent des temps faciles. Les temps faciles créent des gens faibles. Les gens faibles créent des temps difficiles. Et les temps difficiles créent des gens forts. Les enfants rois d'hier sont les parents d'aujourd'hui et font des enfants d'aujourd'hui les empereurs de demain. Attends un peu, mon homme. Ça va être, ça sera pas facile tantôt. Là.
Non.
Ben, c'est sûr. C'est normal. C'est ce qui se passe. Mm. Fait que tout est là, tout arrive. Tu sais, t'as de moins en moins de monde habile avec l'humain ou tu sais qui. Hey, demain matin, là. Demain matin, là, t'enlèves toute l'électronique partout, là. Je dirais pas qu'il y a la moitié de la population qui passera pas au travers, là. Parce qu'ils ne sont pas capables de s'alimenter, ils sont pas capables de. Tu sais, c'est un peu, là. Ça va loin. Je te dis pas qu'il faut vivre en sorte de fonctionner, que tout est là. Mais c'est normal. La vie change. La vie évolue. Il y a une chose qu'il ne faut pas qu'on perde de vue. Puis là, on va tomber dans le nerf de la guerre. Notre corps, lui, là, il a des besoins fondamentaux. On est fait pour vivre en contact avec la nature. On vit sur une planète en mouvement. Si on ne bouge pas, on se fait éliminer et ça s'appelle la sélection naturelle. Ça, ça n'a pas changé. Ça ne change pas, ça. C'est encore là. Tu as encore besoin de t'alimenter. Oui. Tu as encore besoin de boire. Tu ne vas juste pas le chercher à la même place puis tu ne le prépares juste pas de la même façon. À cette heure, comment tu vas faire pour vivre ça? Comment tu vas faire pour que tes enfants vivent bien ça? Dans leur monde, eux autres. Parce que l'ordinateur, là, t'as le pire puis le meilleur au bout du piton. Ils ont déjà commencé à faire des choix à 3 ans que toi, t'as pas fait avant d'avoir eu 16-17 ans. Parce que c'était pas ça. Je te demanderais pas de me calculer une racine carrée. Là. Nous autres, on remplissait des pages à cartable, essayer de rassurer. Puis après ça, les calculatrices sont arrivées, tu faisais 5 pitons. T'annonces-tu qu'il n'y a pas un flot qui reprenait à faire une racine carrée? Ils faisaient le gymnastique intellectuel ailleurs. Le problème que je trouve qui se développe autour de tout ça, c'est culturel, à mon sens. En tout cas, c'est un petit peu la conclusion que j'en tire avec les années dans lesquelles j'ai été en contact avec le mouvement. Au Québec, un enfant qui joue, on va dire qui jouait parce que ça devient un petit peu plus sérieux, c'est un enfant qui perd son temps. Arrête de perdre ton temps, là, puis viens faire ça. En Suède, un enfant qui jouait, c'est un enfant qui se développe. Puis c'est ça. Donc, l'activité physique, l'éducation physique, a souvent été considérée comme une matière de second ordre à l'école. Alors qu'on n'a jamais entendu parler que quelqu'un était mort de ne pas avoir fait de mathématiques, tous les jours, des gens qui meurent de ne pas faire d'activité physique. Tu sais, quand Mme Robillard a décidé d'enlever des cours d'éducation physique dans la formation collégiale, elle enlevait tout, elle-là. Ça enlevait tout. C'était pas important. Elle, c'était du menu fretin, ça, cette activité-là. Alors qu'un cerveau dans un corps qui ne bouge pas est un cerveau qui ne résonne pas à pleine capacité, elle a fait de ces étudiants-là parce qu'on a réussi à travailler. Moi, je t'annonce que j'ai dit, mec, qu'on me frappe, j'aurais pas eu genou à terre, moi, debout, là. Je me suis battu pour ça, comme tous les gars en éducation physique qui y croyaient. Bon, on a réussi à en récupérer 3 sur 4, mais il en manque encore un. Puis les étudiants le demandaient. Puis ils ont toujours refusé de le faire. Parce que c'est, pour eux autres, c'est pas important. Fait que tant qu'on n'aura pas des politiciens là, qui vont y croire à ça, puis une population qui va exiger ça, il va arriver des affaires qui arrivent là. J'ai parlé à la radio il n'y a pas longtemps de Sainte-Anne-de-la-Pocatière. Ils ont fermé la piscine du collège là-bas. Ils n'ont pas d'argent pour la rénover et tout le kit. Hey! C'est du monde de là-bas qui m'a appelé. Ils m'ont dit, monsieur Bouchard, on aimerait ça vous parliez de ça. C'est un peu, là. Moi, ça me révolte, là. Comme ils ont fait au collège, Sainte-Foy, ils ont fermé la piscine. Ils voulaient l'enterrer, là. disait qu'il n'y avait pas d'argent pour la réparer. Puis tout le... D'abord, c'est un manque de vision des gens qui ont été là avant, qui n'ont pas entretenu ces choses-là, parce que pour eux autres, c'était moins important. Tu sais, pris pour acquis. Puis, ensuite, ces administrations qui sont là dans le moment, qui sont pognées pour vivre avec le problème. Et s'ils n'y croient pas, ils ne vont pas. Il n'y avait pas d'argent, il rend pour rénover la piscine, mais il mettait 2 millions sur la face du collège. On a un problème.
C'est le budget qui n'était pas à bonne place.
Ben oui, les priorités sont quoi? Les natations, c'est pas important. Ils ont fait une deuxième piscine au PEP, ça est pleine. Ils vont où, les étudiants, avant d'arriver à l'université? Ils vont au cégep. Saint-Anne-de-la-Pocatière, là, la population, la piscine pour une population dans une région comme ça, là, ça n'a pas la même signification que la piscine pour une population à Québec, parce qu'il y en a 45 autour, 50, 60. Là. Eux autres, c'est la seule activité qu'il y avait à l'intérieur qui pouvait aller, ça, puis l'aréna. S'il y avait 1000 personnes qui fréquentaient cette piscine-là par mois, exemple, c'est 1000 personnes de moins d'un pilule à la fin de la semaine, ça, là. Là.
Ben oui, c'est clair.
Le budget du Québec, c'est 52 % du budget de la province, rien que sa maladie.
La santé, oui.
C'est pas investir dans la santé, c'est pas construire des hôpitaux, ça, c'est investir dans la maladie. Investir dans la santé, c'est construire des piscines, c'est construire des facilités qui vont devenir des éléments incitatifs à la pratique et la poursuite de l'activité physique. Puis là, j'amène un... Tu dis que je suis raconteur, il faudrait que je te laisse me poser ma question.
Non, mais moi, j'aime ça, vas-y, t'es sur une lancée, là. Je te coupe pas.
Bon, ben, écoute bien, moi, je trouve que on a problème. Des fois, je parlais avec Pierre Lavoie, puis qui disait des choses il n'y a pas longtemps, on voit passer une vidéo, tu sais, au Québec, on se fait fourrer, on n'est pas inclusif dans la pratique de l'activité physique, on veut que les jeunes fassent la compétition, puis Pierre, quand il était jeune, ils ont dit qu'il ne serait pas bon dans le sport.
Oui. Aujourd'hui, ça va bien.
Il a gagné des triathlons.
Ironman.
Des Ironman. Mais il ne faut pas t'oublier que s'il est ce qu'il est aujourd'hui, c'est parce qu'il a fait ces Ironman-là.
Ouais.
S'il n'avait jamais fait ça, il n'y a jamais personne de l'aurait écouté.
Exact.
Bon. Lui, ça lui a permis de faire une promotion, de populariser l'activité physique, puis je suis à 100 % avec lui là-dessus. Sauf que la nuance que j'apporte là-dedans, moi, c'est qu'à mon livre, de la compétition, ça n'en prend. Ça ne prend pas que ça, ça n'en prend. Et ça prend aussi de l'activité récréative. Tu sais, quand tu dis le sport, c'est sport compétitif, c'est pas bon, là, c'est bon. Si tu ne fais pas du sport pour gagner, t'en fais pour quoi? Pour t'amuser. Si t'en fais pour t'amuser, pourquoi t'es un arbitre?
Ouais.
Tu sais, il y a des nuances à porter.
Ouais, parce que les compétitions, il va y en avoir sur le marché du travail aussi par la suite. Là.
Hey!
Si tu ne l'inclus pas à nulle part dans le cursus scolaire ou encore dans les sports, à un moment donné, le jeune adulte va faire face à quelque chose à 21 ans. Il va dire, bien voyons, c'est un mur de briques qu'on vient de bâtir. C'est quoi? C'est une compétition. Il y a des gens qui veulent mon poste. Il y a des gens qui veulent ma job.
Tu peux ne pas aimer ça. Puis ça, je comprends ça. On n'est pas tous versés dans la compétition. Moi, je l'ai été longtemps, mais on n'est pas tous faits comme ça. On ne peut pas demander ça de tout le monde. Donc, il ne faut pas que tu jettes le bébé avec l'eau du bain. Tu sais, tu dis, OK, un programme compétitif est là, mais ça prend un programme récréatif, un programme éducatif en quelque part. Et ça, c'est essentiel. Puis la seule place où tu es sûr que tout le monde va y toucher, c'est à l'école.
Oui. Je suis entièrement d'accord avec toi, Marcel. Puis j'ai jasé avec un chercheur de l'Université Laval parce que tu nous as amené sur un point tantôt. On se ramasse avec des jeunes adultes qui, au niveau de la dextérité, sont rendus de véritables empotés. Puis lui, il disait que c'était une catastrophe là, parce qu'à certains moments, pour des gens qui veulent pratiquer des sports, exemple universitaires, sont incapables de les pratiquer en raison du fait qu'au niveau de la dextérité, ils ne sont pas là. Sont plus là. Donc, il y a une rééducation à faire sur ces jeunes adultes-là. Puis parfois, ils n'arriveront jamais au seuil où ils étaient supposés d'être à 21 ans. Si au départ, on les avait pris, puis on leur avait dit, voici l'éducation physique.
Tout le monde n'est pas fait
voici
pour ça.
Voici les sports. Je comprends,
Marcel. Tout le monde n'est pas fait pour ça. Tu sais, Tiger Woods, là.
Ouais.
C'était-tu un bon golfeur?
Excellent.
Moi, je connais du monde. Ils ont fait le même entraînement que Tiger Woods. Ils ont travaillé avec le même équipement que Tiger Woods, puis ils ne vont pas achever. Tu comprends? C'est faux de dire que tout le monde peut faire n'importe quoi.
Je comprends, mais quand on est rendu avec des jeunes qui sont pas capables d'attacher le lacet...
Ils n'ont pas l'affaire là.
Non, je comprends.
Ils n'ont pas d'affaire là. Oui. Ils s'en aillent pas faire de la compétition, là.
Mais la
ils vont se faire refuser.
Je ne veux pas m'astiner avec toi, mais la vraie vie...
On s'astine pas, je suis d'accord avec toi.
La vraie vie va leur frapper d'en face à un moment donné.
Exact. C'est pour ça que le sport, ça devient un élément important. Parce que quand tu fais un sport d'équipe, exemple, moi, j'ai joué au basket plus jeune.
Ouais.
T'as vu ma grandeur, là?
Oui.
Hein? Je mesurais 4 pieds 11 à 14 ans, moi, là. Je dis tout le temps au monde, ils m'ont piqué parce que je grandissais trop vite, là. Mais alors que je peux-tu te dire que j'étais le plus petit de la gang?
Oui.
J'étais pas le meilleur de la gang.
Non.
J'arrivais en avant du filet, j'avais un pécan de main au-dessus de la tête, t'as pas balancé.
Fallait que tu travailles plus fort que
les autres.
Sauf
que j'étais agile. Donc, j'étais bon pour me déplacer rapidement, puis je faisais des passes. J'ai trouvé ma place comme ça. J'ai trouvé, tu le sais, il y a des places qui étaient... Puis là, quand je suis arrivé en gymnastique, je les ai toutes payées à la traite. Parce que là, j'étais à ma place. Mais tu sais, j'ai appris qui j'étais, ce que je valais, comment je me plaçais dans le groupe, puis comment je pouvais être utile à mon groupe. C'est à ça que ça sert, l'activité sportive. C'est un monde, c'est un pan de mur dans l'éducation. C'est tellement important. Aujourd'hui, là, dis aux enfants, là, écoute, faut t'aller à l'école. Si tu vas à l'école, tu vas avoir une bonne job. Si tu as une bonne job, tu vas faire de l'argent. Si tu as ça, ta femme, ta blonde va être belle, tu vas avoir des beaux enfants, tu vas être heureux dans la vie. Hey! On avait le champion des suicides à 11 ans, il n'y a pas tellement longtemps encore. Hein? Parce qu'il n'avait pas appris qu'il pouvait perdre. Puis il faut que tu apprennes à perdre avant de savoir gagner.
Ouais.
Mais il faut les apprendre. Il faut accepter. Aujourd'hui, là, il y a du monde qui va accepter d'avoir un échec en mathématiques. Ils n'accepteront pas d'avoir un échec en éducation physique. Pourquoi? Pourquoi tu acceptes de ne pas être bon en maths, mais tu n'acceptes pas d'être pas être bon en éducation physique? C'est parce que tu considères que si tout le monde peut faire ça. C'est pas vrai que tout le monde doit faire ça. Alors, si le but de l'éducation physique, c'est pas de te faire couler, mais c'est de donner des saines habitudes de vie pour faire en sorte qu'avec les années, tu vas avoir trouvé ton champ, l'activité physique que tu aimes faire, que tu vas être dans la pratique, puis tu vas y aller dans le plaisir.
La coopération, c'est
que excellent, ton travail d'équipe. Tu vas travailler en équipe toute ta vie. Bien, si on ne t'apprend pas ça, tu vas l'apprendre où? Puis la place où tu es certain. Moi, je donnais des cours de plongée au collège. Vous êtes toujours, vous apprenez à réagir positivement en situation de stress.
Tu as donné des cours de plongée
pendant 35 ans.
Parce que là, tu viens des Escoumins, c'est un des plus beaux endroits au monde.
Ouais, c'est ça. Ben, peut-être pas au monde, mais au Québec, en tout cas, c'est beau.
Sérieux, aux Escoumins, moi, j'ai vu des couleurs aux Escoumins, en dessous de l'eau, que je voyais pas au Mexique. Là.
Mais tu sais, l'avantage des Escoumins, là, hein, c'est que tu vas plonger, c'est à côté.
Ouais.
Tu embarques à l'eau, c'est là. Tu fais pas 10 000 au large pour entrer dans l'eau. Mais... Il y a de l'eau là pour t'en mettre dans le nez tant que tu en veux. Là.
Marcel, ton eau est frette en sacrament.
Oui, t'as bien raison. t'as tout à fait raison. Mais ça, il n'y a aucun... Oui. Tu sais, c'est vraiment un beau kit. Puis la plongée sous-marine, c'est une belle activité pour apprendre à réagir positivement en situation de stress. Puis ce que je disais à mes étudiants, nous autres, c'est une grosse pièce de théâtre.
Ouais.
Vous êtes les acteurs, je suis le metteur en scène. Puis le stress, je vous présente, c'est moi. Fait que quand je vais vous mettre en situation de stress, vous allez apprendre à réagir positivement.
Si t'es
en dessous de l'eau, puis t'as une situation de stress, puis je te vois arriver en haut, t'as pas compris.
Exact.
Faut que tu règles ça là.
En dessous.
C'est là que ça se passe. Fait que, mais tu sais, on les met, c'est des mises en situation. C'est le fun, non? Tu voyais, ça apprenait. J'ai même eu quelqu'un qui était sourd et muet dans mes cours de plongée sous-marine. Puis à la fin de la session, quand j'ai donné sa note, tout le monde l'a applaudi. Puis je regardais au monde, je faisais signe avec les doigts, regarde le monde autour. Tout le monde t'applaudit. On broyait.
Mais je comprends.
Les bouts, tu faisais des exercices des bouts, les yeux bouchés, OK, le masque bouché, là. Puis il enlevait son détendeur, puis il fallait qu'il en trouve un autre en quelque part. Lui, il n'entendait rien, il ne voyait rien. Puis il fallait qu'il fasse ça, puis il réussissait à faire toutes ses affaires. Mais en dessous de l'eau, c'est le seul gars qui parlait. Parce qu'il parlait avec des signes.
Oui, c'est ça.
Il se comprenait, lui.
Oui, puis la coopération avec ton binôme, tu sais,
c'est tellement une belle place pour faire vivre des expériences incroyables. J'ai eu des étudiants, moi, je ne suis pas le meilleur prof au monde, là, dans chaque prof, dans sa discipline, dans ceux que j'ai connus, en tout cas, ils vivaient vraiment, là, les vrais. Là. Et je regarde ça, je rencontre ces étudiants-là, puis ils viennent me voir, Marcel, hey, te rappelles-tu? Marcel, ils vont se rappeler de ça toute leur vie, puis ils ont fait ça à 17 ans, là. Pas à 18 ans, là. Ça veut dire quelque chose, ça.
Ben oui.
Ça veut dire quelque chose. Ben, t'es plus jeune, là, puis t'amènes à la pêche, là. Ils vont t'en parler de sa sortie de pêche-là, puis son premier poisson.
Ah, j'appelle ça mes boîtes à souvenirs. Quand j'amène mes gars à des places, là, tu sais, on était à pêche, on fait. Des fois, on va en forêt, on se promène, on va observer des animaux. Moi, j'appelle ça ma boîte à souvenirs. Je leur dis tout le temps, demain, on s'en va se créer des souvenirs. Puis eux, ils comprennent pas ça. Je le dis pour moi, en fait. Mais eux, ils comprennent pas ça, mais ils savent que se créer des souvenirs, c'est le fun. Ça rime avec.
T'sais,
plaisir.
Ils apprennent pas à vivre par procuration.
Ouais.
Ils vivent.
Exact.
Ils ressentent. Le vécu, le senti. Je vais être à Saint-Tite, là, dans le Festival Voisin de Saint-Tite. Là. Ça fait déjà près de 20 ans que je suis là.
Ouais.
J'anime en bas les rodéos. On fait de l'analyse sur certaines performances. Puis tout. Là. Puis tu sais, là, je vois des gars, là, c'est des performeurs, c'est des athlètes, ces gars-là, là, mon homme. Tous des athlètes. Là.
Mm-hmm.
Puis les bêtes, c'est des athlètes aussi. Là. Puis il y a toute une connaissance, une communication qui existe entre ce monde-là, puis un sérieux dans la pratique de l'activité. Qui, pour certains, à l'autre bout, qui sont sur la bière dans les estrades, puis ils vont dire « Ah, c'est des cow-boys. » Non, non, ça va plus loin que ça, là. Tu sais, des taureaux gauchers, il y en a, il faut le savoir.
Il y a une science derrière ça.
Oh, oh, solide, ouais. Solide, là. Et puis je vais te dire, là, je vois des performances, là, puis je vois du monde regarder ça, tu sais, puis il y en a qui vont comprendre, parce qu'on essaie de faire de l'éducation là-dessus, parler un peu comment ça se vit, puis c'est pas vrai que ça fait mal à la bête, puis j'explique tout, puis on voit les choses, là, et on s'en va là-dedans, il y a des vétérinaires qui sont là, puis tout, ça pour te dire que c'est un monde de mouvement, c'est un monde de vie, c'est du monde qui sont connectés, qui ont deux pieds à terre. Tu sais, c'est solide, sa vie proche de la planète. C'est ça. Si vous ne faites pas ça dans la vie, je ne parle pas de fuse rodéo, faites de l'activité, trouvez-vous quelque chose. Vous faites quoi? Vous faites quoi? Vous regardez une vidéo qu'un autre a vécu? Si tu passes ton temps à regarder une vidéo de forêt, là, tu ne sais pas ce que ça sent en forêt.
Non.
Tu ne sais pas ce qu'est quoi l'odeur de la pluie quand tu as la plombe et tu es en forêt. Tu ne sais pas c'est quoi le frisson de l'eau froide. Tu ne sais pas ça. Non.
Je vais te dire, moi, j'ai eu une révélation, Marcel, là, peut-être un peu sur le tard, mais à un moment donné, je regardais, il y avait des statistiques de disponibles sur mon cellulaire, sur mon temps d'écran et sur toutes les petites patentes que je pouvais faire sur mon téléphone cellulaire. Puis à un moment donné, j'ai eu une révélation. 12 heures par semaine, je regardais la vie des gens sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Instagram, que ce soit sur Facebook. Je me disais, attends un peu, là. 12 heures que je consacre à observer la vie des autres. Puis depuis ce temps-là, j'ai réduit mon temps d'écran.
Ça, c'est...
faut être conscient.
C'est une belle prise de conscience. Ouais. Moi, je suis beaucoup là-dessus. Je pose toutes sortes d'affaires. Je fais une toune à tous les jours, du piano, puis je chante.
Ouais.
Là, t'as toute ma gang de deux dents qui écoutent ça, là, qui ont mon âge, puis qui trouvent ça le fun, des souvenirs. Puis je mets une photo, je t'avoue, là, je mets une photo. Parce que c'est un élément motivateur. Pour moi, là, ça en motive à bouger. Et à part les 3-4 qui m'écrivent, t'as besoin d'attention, toi? Je lui dis toujours oui, puis toi, t'as besoin de mon attention? C'est quoi le problème? Mais c'est ça, j'envoie ça. L'idée, c'est de motiver le monde à bouger, de rester dans l'action.
Ouais.
Puis de comprendre que quand t'as un enfant qui grouille, là, éteins-les pas. Laisse-les grouiller. On construira pas une société avec du monde aphasique. On va faire ça avec du monde en santé qui ont de la colonne puis qui savent bouger. Puis une colonne, là... Ça se développe avec la tension que les muscles exercent chaque côté, ses parois. Sa partie calcaire va devenir plus épaisse puis plus solide. Sa partie osseuse, ça se fait comment? Quand tu fais du mouvement, quand tu bouges. Puis c'est du monde qui sont capables de prendre des décisions. C'est du monde qui vont être capables d'avancer puis qui vont faire évoluer. Mais éteins-les pas.
Non, c'est ça.
Les affaires de TDAH, là, il y en a de TDAH, mais qu'une classe au complet, ça va être TDAH, t'as un problème, madame.
Non, c'est ça. Puis qu'on soit la province la plus TDAH du Canada, je trouve ça très particulier.
Ça.
Mais ce qu'on montre à nos enfants, ils vont le reproduire avec leurs propres enfants. Fait que si on les laisse dans le sous-sol constamment sur les jeux vidéo, ils vont faire la même affaire. Puis tu veux tout ça pour tes enfants. Une fois de temps en temps, quand il fait pas beau dehors, on les garde dans dedans, puis on s'amuse toute la gang ensemble, on joue à des jeux vidéo. C'est bien correct, mais sinon, l'été, avec le bel été qu'on a connu, si vos enfants ont été en dedans tout l'été, ça n'a comme pas de bon sens, Marcel. De les inciter à sortir dehors. Hey, je veux savoir, le Marcel, jeune enfant, il faisait quoi, lui, comme sport?
Chez nous, il n'y avait pas de sous.
Non. Qui t'a initié au sport?
Mon père était mécanicien, puis mais mon père était très agile.
Ouais.
Il était encore plus petit que moi un peu, là. Puis je dis tout le temps que j'étais le plus grand de la famille, il fait tout le monde pour rire, là, mais c'est vrai. Mais, tu sais, c'était un gars qui était très agile. Donc, moi, j'avais une certaine agilité. Puis j'en prenais à l'école. Puis quand on commençait à faire de l'éducation physique un peu, je faisais des choses. Alors j'adorais ça. J'ai fait de la gymnastique, moi, jusqu'au Canadien. Parce que ça coûtait pas cher, ça se faisait à l'école. Tu comprends? J'aurais aimé ça faire du ski à l'époque parce que j'en ai fait des compétitions de ski. Après ça, j'ai même fait une compétition nord-américaine.
Ouais.
Mais j'ai fait ça plus vieux parce que là, j'avais moyen de me payer puis y aller. Mais j'étais limité dans ça. Mais moi, j'avais un caractère de mouvement. J'aurais jamais fait un athlète olympique parce que j'avais pas le tempérament pour faire ça. Tu sais, moi, j'aurais pas été capable de tourner sur le même sens de la patinoire pendant 15 ans pour baisser mon temps. Quand j'avais fait 4 tours, il fallait que je fasse d'autres choses. Fait que j'ai fait du plongeon. J'allais jusqu'au niveau canadien en plongeon. J'ai fait de la natation, j'ai fait mon sauveteur, j'ai fait toutes ces choses-là. J'ai fait de l'escalade, j'ai fait des cours de la Fédération moniteur. J'ai
fait sur des sports.
J'ai ça, j'ai fait de la plongée, j'ai monté jusqu'à instructeur. J'ai fait canot de rivière en eau vive. J'ai fait niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4, mon instructeur. J'ai fait plusieurs formations comme ça. qui m'amenait toujours dans le mouvement, puis qui m'a permis de me développer. Puis à l'université, bien, je faisais du sport universitaire en gymnastique, j'étais là-dedans. Alors, j'ai toujours été dans le mouvement. Chez nous, mon père, ils m'ont vu faire une compétition, puis c'était ma dernière en gymnastique. Mais il s'est toujours informé. Comment ça va? C'est-tu correct? Puis, t'as-tu battu à ton goût? T'sais, tu comprends? Alors, ouais. mon père n'avait pas besoin d'être là, ma mère non plus. Il m'encourageait. Mais tu sais, parce qu'il n'y avait pas un moyen d'aller là, il travaillait, ça, tu sais.
Puis vous veniez des Escoumins.
Oui. Okay. Ouais. Puis après ça, c'est venu rester à Québec. Puis à partir de là, ben.
Ben ça, ça a grossi. Marcel Bouchard est mon invité ce soir. On va faire une courte pause. Marcel va rester encore avec nous pour à peu près une dizaine de minutes. Toujours un plaisir de t'avoir en studio. C'est le fun.
Tu vas trouver que je suis radote en
tabac. Arrête, arrête. Les auditeurs t'apprécient. On vient.
Marceau, le soir. Le soir. Boulevard 102.1. En semaine, 10h. Boulevard 102.1 vous présente un show humain avec un duo de feu. Marceau et Audrey Pinchot animent l'open mic et donnent une voix à monsieur et madame tout le monde afin de mettre en lumière leur quotidien ordinaire et extraordinaire dans l'open mic. L'open mic avec Marceau et Audrey Pinchot. Du lundi au vendredi, 10h, à Boulevard 102.1. C'est payant d'écouter Boulevard 102.1. Cette semaine, restez à l'écoute de Boulevard 102.1 pour gagner votre paire de billets pour aller voir Judas Priest le 13 septembre prochain au Centre Bell. Boulevard 102.1. Votre pocheur d'étiquettes.
Salut Nissan.
Oh Karine, j'ai un exercice de visualisation pour toi.
Parfait, je me ferme les yeux.
Tu conduis en ville.
OK.
Mais dans un spacieux Nissan Kicks.
Oh!
Avec sa chaîne audio Bose Premium intégrée aux appuis-têtes en option.
J'aime ça. Hey, dans ma tête, il n'y a même plus de trafic.
Pendant l'événement Go Nissan, louez le Kicks S 2024 à partir de 266 $ par mois pendant 24 mois, l'équivalent de 61 $ par semaine. Passez chez votre concessionnaire.
Jusqu'au 3 septembre, à compte de 1895 $, valeur au détail de 25 197 $ sur approbation de crédit détail chez Nissan.
Connaissez-vous le service d'authentification gouvernementale? Il permet d'accéder à plusieurs services en ligne du gouvernement du Québec avec un seul compte. En 2024, le service d'authentification gouvernementale donnera accès à d'autres services en ligne du gouvernement. Soyez prêts. Faites comme plus d'un million 500 000 personnes et créez votre compte en visitant québec.ca/authentification-gouvernementale. C'est simple, rapide et sécuritaire. Un message du gouvernement du Québec.
Food la bouffe, c'est le choix idéal pour des repas prêts à manger, copieux, frais et savoureux. Offrez-vous des plats délicieux adaptés à vos envies, prêts en seulement 3 minutes. Un nouveau menu succulent chaque semaine avec la possibilité de personnaliser vos repas. Préparé et livré dans des boîtes isothermiques, garantissant des plats au frais jusqu'au moment de la livraison.
Visitez foodbouffe.com pour tous les détails. Livraison gratuite partout au Québec.
Étudier en étant payé, ça te parle? Deviens serveur avec notre DEP 100 % rémunéré. Que tu vises les restaurants renommés ou les hôtels prestigieux, tu acquerras les compétences essentielles pour exceller sur le marché du travail. Accord mets et vins, mixologie, maîtrise du service table d'hôte jusqu'au banquet et plus. Apprendre le métier de serveur tout en étant rémunéré. Inscris-toi pour garantir ta place à l'automne 2024. CFPenvolée.com à Montmagny et Fierbeau.com à Québec.
Matériaux OD est à votre service pour vos petits et grands projets de construction depuis 1946. Cette semaine, obtenez le barbecue à granules portatif Pit Boss pour seulement 415 $ ou une balançoire 4 places sur roue à 789 $. Pour toutes les offres, consultez la circulaire sur matériauxaudet.ca.
C'est le grand retour d'Énergie Box et Benoît Martel à Saint-Romuald. Venez rencontrer l'équipe d'Énergie Box lors des portes ouvertes les samedis et dimanches 24 et 25 août. Débutants ou compétiteurs, il y a un cours pour vous. Les portes ouvertes d'Énergie Box les 24 et 25 août à Saint-Romuald. Energybox.ca.
Chez Toyota, on sait que la vie est pleine de petites victoires, comme assembler ce fauteuil facilement et sans pièces en trop. Drayout! Ça, ça veut dire bravo! On conçoit nos véhicules primés en fonction de vos besoins pour que vous puissiez finalement retourner votre fauteuil parce que sa couleur jaune et les rideaux mauves matchent pas vraiment. C'est l'heure des victoires quotidiennes. C'est l'heure Toyota.
Jusqu'au 3 septembre, profitez d'un incitatif du manufacturier de 3500 $ sur le BZ4X en plus des rabais gouvernementaux allant jusqu'à 12 000 $.
Boulevard. Saviez-vous que Yannick Marceau ne mange jamais pendant son émission, qu'Audrey Pinchot se désorganise lorsqu'elle parle d'animaux et que la lecture de chevet préférée de Jeff Fortin, c'est les rapports annuels? Maintenant, vous le savez.
Puis on parle aussi d'affaires pertinentes.
Boulevard 102.1. Tes sujets, ton rock, ta radio. Marceau, le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau, le soir.
Marcel Bouchard est avec nous en studio pour passer une partie de la soirée. Marcel, c'est toujours un plaisir de t'avoir avec nous autres. Puis écoute, je me demandais, parce que là, tu nous as parlé du festival Western.
Oui.
Es-tu encore porte-parole de bien les festivals?
Ben là, je suis pas porte-parole, mais je travaille dans le rodéo. On avait une réunion hier soir.
T'es dans
justement.
Le rodéo?
Oui, okay. Oui, dans le rodéo, on fait l'analyse des autres, les changements de cavaliers. On fait du radar aussi sur les chevaux pour expliquer à quelle vitesse ça rentre avec le cowboy quand il saute en bas, puis du sauvetage, puis que l'autre embarque pendant que le cheval court. C'est toute une discipline. Alors, on parle de ces choses-là. On fait des entrevues avec les cowboys pour que les gens qui sont dans l'estrade comprennent des choses. Ouais, parce que si tu n'as jamais vu un rodéo de ta vie, là, tu as vu des shows rock, là, mais tu n'as jamais vu un show qui brasse de même. Faut que tu voies ça. Regarde, c'est tout un spectacle. C'est un spectacle de performance. C'est des Olympiques. Et qu'est-ce dans mon livre?
C'est des passionnés.
Western. Ouais. Ah, tout à fait, c'est des passionnés. Je parle pas de toute l'infrastructure qui est autour de ça, parce que c'est un grand monde, c'est un titre. Hein. Passe 700 000 personnes dans 10 jours, là-bas, dans un village de 4 000 habitants. Tu t'annonces que... Il y a juste les chevaux qui ont de la place à part de ça. Là. C'est plein de monde, mais c'est le fun. Mais le rodéo, moi, je suis là pour l'expérience rodéo. À vivre.
Tu fais ça encore des conférences une fois de temps en temps?
Oui, j'en ai une demain d'ailleurs.
Oui. Fait que tu es encore bien occupé. Te restes-tu des choses à faire que tu te dis, ah ben ça j'ai toujours voulu, fait que c'est un projet que, dans
papa,
lequel je me lance.
Papa, il disait, un vieux loup, il faut que ça garde sa trail.
Oui. Hein?
Fait que moi, je reste dans ce que je connais. Je suis dans l'activité physique, je fais la promotion de l'activité physique. Je me fais un devoir de faire ça pour les enfants, pour les jeunes, quand ils ont le Marmot Trail qu'ils ont démoli à Sainte-Foy.
Ah, ça, c'était pour
ça. J'ai été là-dessus, j'ai été sur le débat de ça, j'ai fait des choses. Je fais des web, là, je fais des directs des fois. Là, sur mon, ça monte à 1 200 000. J'ai même un qui est allé à 2 millions. Ça joue 800 000 des fois. Ça va loin là, pour un petit direct là, que je fais à sa galerie chez nous avec ma grosse face de poupée bout de chou dans l'écran, puis pas d'autre image que ça, puis je jase. Là. Mais c'est des choses comme ça. Puis tu vois qu'il y a du monde, quand ça touche, le monde écoute. Tu le vois, ça monte.
Parce que toi, quand tu jases, tu y vas avec ton cœur. Puis je pense que les gens sont capables de le percevoir. Dans le dossier de la Marmot Trail, les gars étaient venus une couple de fois nous expliquer le dossier et tout ça. T'sais. On a tellement erré au niveau de la ville. La ville a tellement erré dans les négociations. Plutôt que d'essayer de régler les choses, on s'est dit non, on va faire nos affaires de notre bord. Puis Marmot Trail, c'est terminé.
La conclusion de ça, là, on ne sait pas tout.
Oui, exact.
Tu comprends? On ne sait pas tout.
Ouais.
Là-dessus, je fais un petit sourire en coin, là. Mais on ne sait pas tout.
Parce que moi, je jase des fois avec les conseillers à la Ville de Québec. Puis là, ben j'ai dit à Jeff, je vais le nommer parce que c'est faut que je le fasse. Je me sens mieux quand je nomme les affaires. J'ai écrit à Jean-François Gosselin. Je dis là, t'as-tu parlé avec les gars de la Marmot Trail? Non, ils n'ont pas communiqué avec moi, alors qu'on m'avait dit que les gars de la Marmot Trail avaient fait des approches avec la Ville de Québec. Donc, j'ai donné le numéro de téléphone du gars de la Marmot Trail, d'un des gars de la Marmot Trail. Puis, il y a effectivement eu des communications qui se sont faites. Mais jamais la Ville s'est approchée des gars en disant, hey, ce que vous faites ici depuis une décennie ou même un peu plus, c'est formidable. Y a-tu moyen de se créer un organisme là, sans but lucratif, puis que cet organisme-là puisse amasser des fonds, puis se donner une assurance pour être sûr et certain que les gens qui pratiquent ce sport-là, s'il y a de quoi y arrive, ben vous autres, vous allez être assurés, puis comme ça, tout va être legit. Puis ce secteur-là, tant aussi longtemps qu'on ne l'utilisera pas, ben vous allez pouvoir l'utiliser à bon escient.
On sert toujours le même maudit argument plate, là, tu vas me faire grimper. Dans les deux, là. Les assurances. Hey, là, c'est la folie, là. T'as une piscine dans ta cour, ça te prend une clôture autour de la maison. Après ça, là, ça prend une clôture autour de la piscine. Après ça, ça prend une clôture barrée autour de la piscine. Faut pas que la maison soit adjacente à la piscine. Hey! C'est sûr qu'un enfant qui se noie, c'est un enfant de trop, là.
Ouais.
Je suis d'accord avec ça. Pourquoi les gens qui demeurent sur le bord des fleuves, du fleuve, puis des lacs, parce que le Québec, c'est un buvard, là, ils se noient pas de façon systématique? Parce qu'ils sont éduqués. Quand j'étais jeune, moi, on allait au lac, je voulais me baigner, mon père disait, c'est le mois d'avril, Marcel, c'est trop frais. Non, veuillez-les. Mais enlève tes souliers. Partais, me tenais la main, me faisais marcher dans l'eau.
T'en souviens.
Les deux pieds gelés, mon âge, j'entendais, non, je veux plus. Non. Quand papa dit, tu peux pas y aller, c'est ça. Il prenait un bout de bois, puis il tirait dans l'eau, puis il ventait un peu, le bout de bois s'en allait, il dit, garde, si tu t'en vas là, regarde, le bout de bois, il s'en va, là. On te verra plus. Faut pas t'y aller quand papa est pas là. Ça s'appelle l'éducation.
Ouais.
OK? Mais si tu arrives, tu fais une piscine à quelque part, il n'a jamais eu, puis il y a quelqu'un dans un bloc appartement à côté, il n'a jamais vu ça, le petit gars, il va s'en aller, il se tire dedans. Premier réflexe, quand il y a un trou d'eau, c'est qu'ils font, il saute dedans. Il a fait la même chose. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va-tu lui mettre des ceintures de sauvetage pour se promener sur le trottoir à cause que ça passe à côté d'un cours d'eau? Voyons donc. montrez-leur à nager, Saint-Simonac. Ouais, au primaire, cours obligatoire d'éducation physique, natation, tout le monde. Tout le monde. Prenez des cours d'éducation physique ou d'information fondamentale et autodéfense. Deux éléments là, essentiels. Là. Essentiels pour te sortir. Pas natation pour faire les Olympiques, natation pour « je me sors du trouble ». Regarde celui qui s'est noyé à base de plein air à Sainte-Foy. Là. On chiale après le lifeguard que tu as de la misère à payer le salaire minimum, qui a des responsabilités dans sa vie, qui a payé pour faire son cours d'instructeur en natation et de sauveteur. Puis t'arrives l'été, puis le Joe Bin qui travaille sa construction, qui lui a un autre type de responsabilité. Mais toi, c'est d'envie, là. S'il se noie, c'est toi qu'on tient responsable. Hey! Hey! Réveillez-vous! Vous payez plus cher faire garder vos chiens que faire garder vos enfants.
On a un job à faire en tant que parent, puis tu sais, le truc que tu as donné, que ton père t'avait donné dans le temps, puis les techniques qu'il avait utilisées, moi, c'est SOS Nancy. Quand j'étais avec la mère de mes gars, on avait acheté un petit chalet 4 saisons qu'on a changé en maison, en résidence permanente, puis on était sur le côté d'un lac. Écoute, j'étais dans mon salon, puis le lac était 5 mètres plus loin, le début du lac. Puis ma grosse crainte avec mes enfants, c'était que mon gars sorte le matin puis qu'il aille dans le lac sans m'avertir. Fait que tu comprends que je dormais pas super bien le samedi puis le dimanche matin quand mes gars commençaient à se lever. Fait que je disais à SOS Nancy, je dis « Bon, j'ai montré à mes enfants à nager, mais je suis quand même pas convaincu de mon approche. Est-ce quelque chose que je peux faire de plus avec mon plus jeune? » Parce que c'est lui qui s'approchait tout le temps du lac quand on était comme un peu plus loin de lui. Elle m'a dit « Yann, laisse-le tomber une fois. Supervise sa chute dans le lac. » Puis il va toucher l'eau, il va avoir peur, puis là, tu iras le sortir, puis tu diras « Écoute, Zach, quand je te dis de pas t'approcher du lac, c'est tu t'approches pas du lac, sinon tu vas tomber tout le temps dedans. » Puis à partir de ce jour, moi, ça a fonctionné. J'étais avec mon beau-frère, on était sur le bord d'un feu, puis là, je voyais mon gars qui, avec son ballon de soccer, a pitché le ballon dans l'eau. Fait qu'il a voulu aller chercher le ballon de soccer, mais la pente était trop abrupte, fait que ses petites pattes n'ont pas réussi à retenir le ballon. Fait qu'il est tombé dans le lac. Puis là, ben, je me suis levé tranquille. Je suis allé voir mon gars qui était en sécurité dans l'eau. Là. Il était sur le bord des roseaux. Puis j'ai dit, bon, je te l'avais dit de ne pas t'approcher du lac. Tu vois qu'est-ce que ça fait quand tu ne demandes pas permission à papa avant d'aller dans le lac? C'est ça que ça fait. Puis il ne s'est jamais rapproché du lac.
Quand tu es capable de faire ça, tant mieux. Il y en a des parents qui ont tout fait, puis c'est arrivé pareil. Qu'est-ce que tu veux? Ça, il va toujours en avoir de ça. T'sais, quand tu prends du vélo, tu fais du bicycle, il n'y a pas personne qui a appris à faire du vélo et qui n'ont jamais tombé. Hein? Il y en a qui se greffinent. Il y en a qui se cassent un orteil, puis il y en a qui se font frapper, puis ils meurent.
Ouais.
Ça, on ne jettera pas les bicycles dans les vidanges.
Mais les techniques de base.
On va essayer de les jouer, justement. Mettre les chances de notre bord, puis d'y aller face à ça. Fait que je pense qu'au Québec, on a une responsabilité là-dessus, sur notre élève, nos jeunes. Parce que, tu sais, à un moment donné, on s'est devenu de plus en plus cosmopolite, le Québec, là, du monde de partout qui arrive, là. Puis ils n'ont pas toutes les mêmes valeurs, là. Ça n'a pas tout pris, ça n'a pas tout rentré en pleine face dans le sport, ce monde-là, là. Puis là, t'es-a à l'éducation physique, là. T'es-a à l'école, là. C'est le temps, là, de donner une formation. Là. Une école primaire, pas de piscine, moi, je comprends pas ça. Puis il devrait avoir une école primaire. Chaque école primaire doit avoir une piscine intérieure pour que les enfants apprennent à nager. C'est fondamental.
Oui,
ils apprennent tout à écrire.
Ouais.
Tu sais, on a tellement fait évoluer notre monde dans l'éducation, là. Ma mère avait une 4e année, puis elle savait écrire sans faute. Aujourd'hui, tu sors d'un bac, puis tu fais encore des fautes.
Ouais, exact.
C'est quoi le problème?
Marcel Bouchard, ça a été un plaisir. Pour les gens qui veulent continuer à te suivre, on peut te suivre sur les réseaux sociaux en tout temps?
Oui, puis on donne des conférences. Si ça vous tente, rejoignez-moi, puis on est disponible. On peut aller vous voir, puis jaser de ça. T'as-tu les saines habitudes de vie, puis Marcel Bouchard Pro. Ou Marcel Bouchard, tout simplement, sur Facebook.
C'est là qu'on te rejoint. Fait que je te souhaite de passer une agréable soirée. Merci beaucoup d'être passé.
T'es bien fin de donner la chance à l'âge d'or à s'exprimer.
Ben, écoute, moi, je veux dire, t'es un bon communicateur. Puis tout ce que tu prônes, j'embarque toujours là-dedans. Puis je t'apprécie énormément en tant
t'es
que personne.
T'es bien
fin. Puis la mère de mes gars t'a dit salut. Je sais pas ce que tu as fait.
Embrasse-la pour moi.
Je peux plus. Je peux donner des becs ses joues. Je peux plus l'embrasser. J'ai plus le doigt. Marcel Bouchard, merci.
Salut, bye-bye.
À tout le monde, passez une excellente soirée sur les ondes de Boulevard. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain 10h pour ce qui est de Marceau le midi. Mais ce sera avec Audrey Pinchot, donc ça va être la partie open mic. Merci d'avoir été là. Bye bye.
Marceau le soir.
Participez à la virée enracinée de Portneuf, culture de saveur. Au menu, des plats originaux, savoureux et locaux et une tonne d'activités pour agrémenter votre virée. culturedesaveur.com.
Ton entreprise a besoin de faire l'acquisition de véhicules? Québec et Sainte-Foy Mitsubishi ont la solution pour toi. Nous t'offrons un rabais allant jusqu'à 4 000 $ à l'achat ou à la location de tous nos VUS. Le RVR, l'Eclipse Cross, le Outlander ou le Outlander PHEV. La garantie de 10 ans ou 160 000 km km et la traction intégrale de Mitsubishi seront les alliés de ton entreprise. Pour ton nouveau véhicule de flotte, ça se passe chez Sainte-Foy Mitsubishi, 2830 rue Einstein et Québec Mitsubishi, 1000 boulevard Pierre-Bertrand.
Le déménagement, ça implique souvent un nouveau quartier, une école pour les enfants, puis ben des boîtes. Pourquoi déménager quand vous pouvez rénover, optimiser votre demeure et reconfigurer chaque pièce avec Nadamé Design? Offrez-vous des services de plan de rénovation réfléchis et adaptés à votre famille. NadaméDesign.com.
Cet été, assurez votre confort avec Miville Climatisation. Concessionnaire agréé de Mitsubishi Electric, la thermopompe la plus fiable selon Protégez-vous. Subvention logivaire disponible et obtenez un prêt sur 10 ans sans intérêt. Miville Climatisation, 3 succursales et au miville.ca.
Vivez l'action sur Max avec des nouvelles enquêtes menées par Hudson et Rex et des nouvelles saisons de vos séries préférées.
Allez, au boulot.
Un max d'émotions, un max d'enquêtes, un max de nouveautés. Abonnez-vous.
Du 5 au 7 septembre, Saint-Roch XP anime la rue Saint-Joseph-Est avec de la cuisine de rue et des spectacles dans des lieux inusités.
Des saveurs à la tonne et une centaine de spectacles de musique gratuits t'attendent.
Découvre notre programmation au saintrochxp.com. Saint-Roch XP est présenté par SiriusXM.
T'as manqué le début du dernier segment? Tout finit par se retrouver sur le blvd.fm.
Le vendredi 23 août dès 20h, la NSPW présente son 500e gala de lutte professionnelle au Stade Canac. Assisté au retour officiel d'Untouchable, la famille complète sera réunie pour affronter nul autre que l'Union, Marco Estrada, Matt Angel et le champion NSPW Travis Toxic qui affronteront Keith Alexander.